Vivre FM podcast.
Bonjour Axel Kahn, on parle beaucoup d'autodétermination dans le domaine du handicap ou du grand âge même, c'est-à-dire le respect du choix des personnes, le choix de leur vie, le choix de leur voix, leur libre arbitre. Est-ce que dans ces périodes de confinement, déconfinement, on y a pensé et ça a été respecté?
Écoutez, on y a pensé, on va dire, un peu autant qu'aux autres et aussi peu qu'aux autres. Mais on a failli y penser beaucoup moins qu'aux autres, je m'explique. Il est sûr que quand on confine la totalité de la population, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Si vous voulez aller vous promener, vous ne pouvez pas aller vous promener, ou alors cela est réprimandé, vous avez une amende de 135 euros. Cela étant dit, et je suis intervenu personnellement et ex qualité à ce moment-là, à un moment donné, il a été question, aussi bien de la part de la présidente de la Commission européenne que des autorités françaises, le président de la République le président du Conseil scientifique auprès de la présidente de la République sur l'affaire de la COVID-19, il a été question de maintenir le confinement pour une durée indéterminée. La présidente du Conseil européen disait jusqu'à la fin de l'année 2020, une officine, une agence privée travaillant un peu avec le gouvernement proposait jusqu'en mars 2021, ne pas déconfiner 18 millions de personnes fragiles. Et les personnes fragiles, c'était les personnes handicapées, c'était les personnes âgées, c'était les personnes atteintes de cancer ou d'autres affections vraiment de ce type-là. Et là, bien évidemment, on se trouvait face à une discrimination et peut-être la pire de toutes. Une discrimination en raison de la fragilité. Alors même que la fragilité doit inciter à aider, à tenir la main, à accompagner, à conseiller, à protéger, jamais à discriminer. Et je suis intervenu, et d'autres aussi, et très rapidement, nous avons pu faire entendre raison aux autorités et la mesure a été ôtée.
Est-ce à dire que on a quand même le sentiment d'avoir essayé de protéger sans poser directement la question aux personnes qui étaient les personnes les plus concernées, notamment quand on s'est effectivement mis les pieds dans le plat en se disant directement que si on était âgé, il fallait impérativement rester confiné et suggérer par là que c'était la seule façon de les protéger.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le reproche que l'on peut faire, ça n'est pas celui pour les autorités politiques d'écouter les spécialistes, les services de santé, les médecins, les épidémiologistes et les infectiologues. C'est en fait de les écouter, donner des conseils et de ne pas du tout demander leur avis aux gens qui sont concernés. Et notamment dans cette affaire de la proposition qui a été balayée rapidement, mais enfin elle a été faite, de maintenir le confinement de manière discriminatoire uniquement pour les personnes fragiles, les personnes les plus âgées, mais à partir de 70 ans, donc vraiment relativement tôt, et les personnes handicapées ayant une fragilité singulière. On n'a pas du tout demandé à ces personnes ce qu'elles en pensaient, et tout s'est passé comme si en réalité cette mesure n'avait pas pour but de protéger les personnes en situation de fragilité, mais de se protéger des personnes en situation de fragilité. C'est-à-dire que l'argument a été « Oui, aïe, aïe, elles sont beaucoup plus fragiles, elles tombent beaucoup plus malades, et il faut que l'on s'en préserve par conséquent. » Alors, je comprends bien le souci de protéger les services de réanimation, les services de santé était un souci extrêmement louable. Mais en revanche, face à la fragilité, la considérer comme un danger dont il faut préserver le reste de la société, c'est bien évidemment une position et une présentation qui sont inacceptables.
On a vu, Axel Kahn, en tout début de cette crise de la Covid, des difficultés particulières dans les centres qui accueillent des adultes qui sont en situation de handicap psychique, qui évidemment ne comprenaient pas, alors qu'on prenait l'autonomie pour eux, pourquoi d'un seul coup il ne fallait plus sortir, il ne fallait plus toucher, il ne fallait plus rencontrer, plus parler. Dans ces cas de figure-là, quelle est la bonne décision à prendre entre laisser la personne décider elle-même, la protéger et se protéger aussi?
Dans cette situation où l'on était avec des personnes en situation d'entendement limité, les circonstances étaient exceptionnelles, certes, mais la question posée était extrêmement ordinaire, extrêmement habituelle. Dans les établissements où on reçoit ces personnes, on essaye de, en mettant les choses au mieux, ce n'est pas toujours le cas, on essaye, en mettant les choses au mieux, d'assurer et de leur maintenir le maximum d'autonomie. On ne fait naturellement pas comme si elles avaient le même niveau d'entendement leur permettant de conduire leur autonomie comme une personne, on va dire, de 25-30 ans, engagée dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit. On s'adapte naturellement. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas il faut maintenir réellement l'autonomie. C'est, compte tenu de la réalité des situations, comment faire en sorte que l'on considère toute l'humanité de la personne en situation de handicap, de la personne handicapée, et cette humanité exige naturellement qu'on essaye de lui permettre d'assurer le maximum d'autonomie qu'elle est en situation d'assumer. Et on sait bien, il y a des cas où la personne n'est pas en situation d'assumer la même autonomie qu'une autre personne totalement valide. On n'était que dans des situations un peu singulières dans le cadre d'une épidémie. Mais le fond du problème est nullement nouveau. En réalité, on est toujours confronté à cette ambivalence qui est la protection et le maintien de l'autonomie. Le maître mot pour cela, je le répète souvent, mais il est important, est le mot de l'accompagnement. L'accompagnement qui vient de la conjonction des deux mots comme panere en latin, manger son pain avec, partager son pain avec, signifie que l'on est avec une personne que l'on considère à ce point comme une semblable et non pas une personne en tutelle, une personne dont on a la pleine responsabilité, que l'on va partager son pain, on peut partager son pain avec elle, il n'empêche que elle est en difficulté, donc il faut l'accompagner en tendant une main secourable. C'est ça la ligne de conduite de la confrontation entre le personnel soignant, en règle générale, les valides et les personnes, en particulier les personnes ayant des handicaps psychiques sévères.
À propos d'un Axel Kahn, il y a la question de la fin de vie qui s'est imposée à nous tous. On a vu le rapport Gedge déposé ces dernières semaines, mais arrivé peut-être un peu tard. Et la question des EHPAD a ressurgi. On avait oublié que c'était un endroit où on y mourait plus qu'autre part. Et surtout que, bah, on n'était peut-être pas forcément adapté pour justement accompagner les personnes en situation de d'être plus qu'en précarité, puisque là, quand on est dans un EHPAD, c'est que généralement on est vraiment sur la fin.
Alors, je ne dirais pas ça. Je vous rappelle quand même que les EHPAD, ce ne sont pas des lieux de mort, ce sont des lieux de vie. Ce sont des établissements d'hébergement, mais moi je n'aime pas le terme d'hébergement, on fait plus que des hébergés, que sont des lieux de vie de personnes, on revient à la question précédente, de personnes qui ne sont pas indépendantes. Et donc il faut accompagner hein, des établissements d'hébergement d'adultes dépendants, de personnes adultes dépendantes. Donc, ce n'est pas des soins palliatifs. Ce serait une grossière erreur. Et même les soins palliatifs ne sont pas des lieux de mort. Ce sont des lieux qui permettent de profiter, alors même que la vie n'est plus appelée à avoir un long déroulement devant elle, à profiter de cette vie de la meilleure manière possible. Ce sont des lieux réellement de vie et en particulier, grâce à l'accompagnement, lorsqu'il peut être mené, il faut que ces personnes-là puissent assumer et avoir accès à tous les plaisirs auxquels ils peuvent avoir accès, qui sont multiples, qui peuvent être sensoriels, qui peuvent être intellectuels, qui peuvent être par appel du souvenir, etc., etc. Et on y meurt parce qu'on est plus proche de sa mort que de sa vie quand on est en EHPAD, on est âgé, on est devenu dépendant et l'on doit mourir. Mais le problème du Covid a été nouveau ici. Car à un moment donné, ça entraînait une totale distanciation entre la personne malade, la personne en EHPAD, la personne cette fois-ci en EHPAD et en fin de vie, elle n'est pas en fin de vie parce qu'elle est en EHPAD, elle est en EHPAD et par ailleurs, elle est atteinte d'une autre affection, parfois la Covid-19, et elle va mourir. Et la famille qui ne pouvait pas lui dire adieu, qui ne pouvait pas participer au deuil. Et même les autres pensionnaires, les autres habitants de l'EHPAD, eux-mêmes cloîtrés dans leur pièce, dans leur chambre, ne pouvaient pas participer au deuil. Et ça, c'est important. C'est important parce que le deuil d'une personne est l'un des marqueurs importants de cette humanité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. L'animal humain est le seul, autant qu'on puisse le dire, qui est une symbolique du deuil. Le deuil signifie que, parce que l'on est une personne humaine, on est important, et la disparition de quelqu'un d'important est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête, qui mérite qu'on le symbolise, qui mérite qu'il y ait une ritualisation de ce passage, de cet événement extrêmement important. La mort anonyme, enfermée dans sa chambre, cloîtrée dans sa chambre, est quelque chose qui a été très douloureux pour les personnes qui se voyaient mourir et pour les proches, les enfants en particulier, qui ne pouvaient pas dire un dernier adieu à leurs parents. Oui, ça, cette crise nous a confrontés à une très très grosse difficulté. Elle pouvait être atténuée jusqu'à une certaine limite pour les personnes elles-mêmes. Aujourd'hui, on le voit bien, les personnes âgées, même malades, dépendantes et malades, et éventuellement s'engageant dans la dernière ligne droite avant le départ de ce monde, pouvaient très bien converser avec leurs proches en utilisant Skype ou un autre système d'audioconférence. Je ne vais pas faire de la publicité pour une marque particulière. Il pouvait très bien voir le petit enfant qui déposait un bisou sur ses doigts et puis ensuite les doigts sur l'écran de l'ordinateur, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, il aurait été possible d'humaniser beaucoup plus que ce n'en a été fait cette distanciation physique qui est devenue tout à fait dramatique lorsque elle a été une distanciation au moment du deuil et cette fois-ci terrible pour les enfants, pour ceux qui laissaient partir un proche, qui était tout de même parfois leur mère, leur père, sans pouvoir participer à cette ritualisation qui est le processus à l'occasion duquel on intègre psychiquement la mémoire et tant de souvenirs extrêmement précis, extrêmement émouvants de la personne qui s'en va. Donc là, oui, on a connu des moments d'une grande difficulté.
Axel Kahn, avant d'être labellisé vieux ou handicapé, ces personnes sont des personnes à besoins spécifiques et ce sont des besoins spécifiques que l'on connaît. On a vu en pleine crise encore un assouplissement des règles de sortie pour les personnes handicapées. On a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, mais quand même encore en pleine crise, les autorisations de visite dans les EHPAD se reproduire dans des conditions de sécurité évidemment garanties. Est-ce que ça, en connaissant ces besoins spécifiques et l'urgence qu'il pouvait y avoir pour ces personnes, on n'aurait pas pu anticiper et le faire dès le début? C'est-à-dire autoriser les visites dès le début en s'arrangeant, même au compte-gouttes, et puis assouplir tout de suite les règles de sortie.
Alors, je vais avoir une réponse nuancée. Oui, on aurait pu le faire dès le début. Mais une des raisons pour lesquelles on l'a aussi fait, il faut bien reconnaître, c'est que, et j'ai déjà fait allusion au début de l'interview, on n'a nullement protégé les personnes en EHPAD, nullement, puisqu'on n'a donné aucune protection, on n'a fait aucun test chez le personnel intervenant, le personnel soignant ou le personnel d'administration des maisons d'hébergement, des établissements d'hébergement EHPAD. Et donc les gens ont réellement été contaminés. Et par conséquent, maintenir un isolement, une distanciation physique uniquement par rapport aux proches devenait intenable. Si on avait voulu véritablement au maximum éviter la contamination, j'en ai parlé tout à l'heure, on aurait pu beaucoup plus utiliser qu'on ne l'a fait les moyens numériques, les moyens digitaux. Je vous ai dit qu'il se passe des choses tout à fait étonnantes. avec une vieille personne qui fait un bisou sur l'écran au petit enfant. On peut le faire, il n'y a aucun problème, il faut réellement le faire. À partir du moment où, de toute façon, on n'a pas protégé ces personnes, le fait qu'on venait les voir et on pouvait les infecter, mais pas les leurs, pas leur famille, avec toutes les mesures de protection, cette fois-ci, ce qui n'était pas le personnel soignant, dûment masqué et habillé avec une charlotte, une blouse, etc., devenait indéfendable, voyez. Donc, le confinement, pour protéger, il se comprenait, il pouvait être beaucoup plus humanisé qu'il n'a été humanisé, en réalité. Les moyens numériques le permettent et le permettent. On n'a pas exploré toutes les possibilités. À partir du moment où cette tentative a été un échec, puisqu'on a nullement protégé les personnes en EHPAD, en effet, il n'y avait strictement plus aucune raison de maintenir cette absolue impossibilité de voir ses proches. On pouvait être contaminé par tout le monde, mais on ne pouvait pas voir ses proches qui, eux, l'étaient moins probablement que le personnel soignant que l'on voyait sans aucune protection.
Et ça a été très, très mal perçu par les familles. Merci Axel Kahn pour ce témoignage. Humaniser le confinement pour les personnes fragiles, c'est ce qu'on aurait pu faire. Merci d'avoir encore une fois, d'avoir pris le temps ces quelques minutes à l'antenne avec nous.
Vivre FM, podcast.